Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Est écrit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis tu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois tu sembles avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi, fais de même. On connaît tous la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Hein. Et quand on est dans ce monde, en fait, dans un monde, on va dire, solitaire, bien souvent, où chacun travaille pour soi, fait les choses pour soi, un peu égoïste, indépendant, hein. Je ne sais pas si le prochain existe. Bien souvent, ou du moins le prochain, on s'en fiche un petit peu dans le monde. Hein. J'ai des citations là par rapport au prochain que j'ai trouvé sur Internet, et c'est intéressant. Nietzsche disait, notre prochain, ce n'est pas notre voisin, c'est le voisin du voisin. Il est loin, il est loin. Un autre disait, l'amour du prochain consiste à ne pas s'attacher à son conjoint actuel, mais aimer déjà le suivant. C'est un romantique. Montesquieu disait je n'aime point Dieu parce que je ne le connais pas, ni le prochain parce que je ne le connais. Intéressant. Voilà un peu comment le monde voit le prochain. Le problème, c'est que, bon, on va peut-être jeter la pierre sur le monde, mais l'Église, parfois, aussi est pareille et ne connaît pas forcément le prochain comme elle devrait le faire, hein, ou du moins a très peu d'intérêt pour son prochain. Donc, cette parabole est aussi autant pour ce docteur de la loi, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et dans cette parabole, Jésus est en train de dire aussi une chose, c'est qu'il va se comparer à ce Samaritain qui est venu là, qui est détesté par les religieux, mais qui finalement, par amour, va donner sa vie. Hein, mais ça, on le saura seulement plus tard, mais c'est aussi là dans cette parabole. Donc j'aimerais nous inviter ce matin à aimer notre prochain, quel qu'il soit. On va voir ça ce matin. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'on peut avoir un prochain, mais selon la religion. Hein, on était tous peut-être comme ça, comme ce docteur de la loi autrefois, et donc ce docteur de la loi vient devant Jésus et veut lui poser une question, mais c'est une question piège en fait. Hein. Et tous les docteurs, les pharisiens essayaient de piéger tout simplement Jésus-Christ pour pouvoir le tuer et s'en débarrasser. Et là il arrive avec cette question. Hein. Il cherche à piéger Jésus hein, en disant « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est un docteur de la loi, il connaît la parole normalement, il est censé savoir. Bien que Nicodème, vous vous souvenez, il n'avait pas très bien compris qu'il fallait naître de nouveau. Donc on ne sait pas très bien si c'était totalement un piège ou s'il ne savait pas. Mais en tout cas, quelque part, il veut piéger Jésus. En même temps, il est complètement hypocrite parce qu'il vient vers Jésus et lui dit « maître hein ». Je ne sais pas si vous entendez un peu l'hypocrisie qu'il y a là derrière. « Maître », parce que ce n'était pas son maître à lui. Hein, ça, c'est clair. Mais il l'appelle comme cela. Et puis le mot qui est là pour éprouver ou pour piéger, c'est vraiment « tenter Jésus ». Il vient et il tente Jésus avec cette question. Et en même temps, il démontre que Jésus n'a aucune autorité dans sa vie, ni sur lui. Donc il est vraiment en train d'essayer de piéger Jésus avec cette question. Imaginez que Jésus aurait répondu à cette question, hein, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il aurait dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Qu'est-ce qu'il aurait dit le docteur de la loi ? Il serait déchiré les vêtements parce qu'il aurait dit, « Tu te dis être le Messie, être le Sauveur. » Donc c'est pour ça que Jésus ne va pas répondre. Ça aurait été un blasphème, en fait, directement pour le docteur de la loi. C'est intéressant dans notre témoignage aussi, des fois, parce qu'on a envie de tout de suite dire les choses et on ne prend pas, comment dire, la mesure de la sensibilité de la personne qui est en face. J'imagine approcher un musulman, il y a des choses qu'on ne va pas dire tout de suite, forcément. Et là, Jésus ne lui dit pas « crois au Seigneur ». Il va avoir une autre stratégie. Il est sensible en fait à la personne qui est en face. Même si l'autre vient le tenter, le piéger, il reste quand même sensible à cette personne. Il va trouver un moyen de l'atteindre. La stratégie de Jésus, c'est qu'il ne répond pas directement. Mais ce qu'il veut, c'est toucher la conscience de la personne, le cœur. Peut-être dans notre témoignage, on oublie bien souvent ça. On radote, on dit les choses qu'on connaît, mais on ne s'intéresse pas trop à la personne en face, qui elle est. Alors Jésus dit, mais qu'est-il écrit dans la loi ? En fait, il ramène le docteur de la loi, qui est censé tout connaître, tout simplement à la parole, à l'Ancien Testament. Il dit simplement que si vous avez une question, allez voir dans la Bible, tout simplement, et vous trouverez normalement une réponse. Alors à l'époque, ils n'avaient pas toute la Bible, ils avaient l'Ancien Testament, mais c'est pareil pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui essayent de deviner la réponse de Dieu pour les questions spirituelles, mais qui ne vont pas aller chercher la réponse dans la Bible. Alors on peut aller aujourd'hui sur Internet, on peut voir un tas de choses. Si vous avez une question qui vous taraude, prenez la Bible, lisez-la du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment où vous trouverez votre réponse. N'allez pas chercher à droite et à gauche. Alors, il n'y aura pas toujours toutes les réponses, mais au moins il y a des principes quelque part. Et si vous ne trouvez pas, venez me voir. Mais Jésus, voilà, lui dit, tu poses une question, mais c'est déjà normalement inscrit dans la loi que tu es censé défendre, que tu es censé connaître. Hein. Toute réponse se trouve dans la Bible, mais pour ça, il faut la lire. Oui. Si je ne lis pas la Bible, je ne pourrai jamais savoir ce qu'elle me dit. Et donc, je ne pourrai pas avoir de réponse à mes questions existentielles ou autres. Mais en même temps, Jésus veut lui montrer que le docteur de la loi avait appris en fait les textes, mais sans vraiment comprendre le sens spirituel derrière. Il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels de la Bible, qui peuvent vous la citer par cœur, mais qui n'ont rien compris en fait. Alors, je dis qu'il faut souvent lire la Bible, oui, il faut l'apprendre, oui. Si on peut, on devient théologien, mais si on ne comprend pas ce qu'on lit, si on ne vit pas ce qu'on lit, ça ne sert à rien. Et c'était exactement le cas de ce docteur de la loi. Puis, le docteur de la loi de répondre, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. Il cite Deutéronome, il cite Lévitique, et donc il connaissait quand même la loi et la parole. Mais est-ce qu'il a vraiment compris cela dans sa vie ? C'est bien de savoir, aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est quoi le prochain ? C'est qui ? Comment je peux aimer le prochain ? Et quel est mon prochain déjà ? Et puis il va poser cette question tout à l'heure. Le docteur connaissait la parole, mais il ne l'avait pas mis en pratique. Du moins, il ne comprenait peut-être pas qu'il fallait la mettre en pratique. Il ne s'agit pas seulement de savoir les choses, il s'agit aussi de les mettre en pratique, de se mettre à travailler. Si je connais les commandements, tu ne tueras point, je ne vais pas tuer. On est bien d'accord. Et c'est pareil pour tout le reste des commandements. Savoir, ça ne veut pas dire forcément être en accord avec Jésus-Christ. Savoir et faire, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il ne suffit pas de savoir que je dois aimer mon prochain. Il faut l'aimer. C'est ça le problème. On est prêt à aimer tout le monde chez soi, tranquille, derrière la porte. Ça, tout le monde est capable de faire. Mais quand on est face à une difficulté, est-ce qu'on est prêt à aimer vraiment la personne ? Jésus répond, fais cela et tu vivras. Aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu et tu vivras. Quelque part, il lui démontre aussi que, avec la parabole surtout après, il lui démontre quelque chose, c'est que, en tant que docteur de la loi et soumis à la loi, pour lui, c'était impossible de pouvoir pratiquer ça à la lettre. On peut légèrement aimer peut-être sa famille, mais aller aimer son ennemi, par exemple, avec la loi dans le cœur, ça c'était complètement impossible pour lui. La loi, et on voit ça dans d'autres textes, ne peut pas sauver quelqu'un. La loi était là pour révéler le péché. Quand elle disait « tu ne tueras point », elle disait « attention, quand tu tues, tu désobéis à Dieu, ou tu ne mentiras point, etc. » La loi révélait le péché, et si vous connaissez Galate un petit peu, Galate nous dit justement qu'une fois que ce péché était là, révélé, je devais culpabiliser, reconnaître que j'étais pécheur et crier à Christ, tout simplement. C'était ça l'idée, en fait, de la loi. Révéler le péché, mais pour amener vers le Sauveur, parce que sinon on était perdu, évidemment. Et c'est ce que devait comprendre cet homme de la loi, que lui, qui voulait absolument vivre par la loi, il ne pouvait pas pratiquer ce que le Seigneur lui demandait, tout simplement. Du moins, il était bien limité, on va dire. C'est impossible d'aimer Dieu de tout son cœur. Si Dieu ne m'aide pas, je ne peux pas l'aimer. Vous êtes d'accord ? Il n'y a que moi, peut-être. Non. Si vous n'aviez pas le Saint-Esprit dans votre vie, en tant que né de nouveau, je ne crois pas qu'on aimerait Dieu. Je ne sais pas si on serait forcément là aujourd'hui, ce matin. Et la Bible nous dit bien qu'il nous aide dans bien des situations à l'aimer encore davantage et à vouloir le suivre. Et c'est ce que devait comprendre cet homme de la loi. Sans le secours de Jésus-Christ dans sa vie, il avait beau essayer de respecter la loi, il n'arriverait pas à l'accomplir. C'est Jésus qui est venu accomplir la loi pleinement. Nous pouvons l'accomplir aujourd'hui, mais parce que nous avons été sauvés, et parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que Christ est venu pour cela. Autrement, serions des chrétiens errants. Le docteur aurait aussi dû comprendre cela, hein, mais qu'il était perdu et qu'il a été loin de pouvoir obéir à la loi parfaitement. On peut avoir une forme de religiosité, on peut essayer d'obéir à certaines choses, mais parfaitement, ça... On peut aimer sa famille. Beaucoup de gens aiment la famille sans être chrétien, hein, etc. Mais quand on leur demanda d'aimer l'ennemi, là, stop. Là, c'est pas pour moi. Parce qu'il n'a pas la faculté ou la capacité que Dieu donnera pour faire cela. Alors, il va poser la question à Jésus, hein, « Qui est mon prochain ?» C'est une drôle de question quand on y réfléchit. Depuis le temps qu'il est docteur de la loi, il aurait peut-être dû un peu réfléchir à cela. Mais en même temps, il devait peut-être culpabiliser et chercher un peu à se justifier là, hein, savoir c'est qui vraiment le prochain. Parce que pour un juif, le prochain, c'était pas très large, hein, le champ, on va dire, du prochain. De plus, lui qui enseigne, il aurait dû comprendre qui était le prochain. Parce que si vous étudiez l'Ancien Testament... elle parle plusieurs fois du prochain, et donc là j'ai noté plusieurs versets, on pourrait dire. Hein. Alors dans la Bible, le prochain peut être un ami, un compagnon, une personne qui vit tout près. Pour les Israélites, ils avaient des devoirs moraux, en fait, vis-à-vis du prochain. Donc le docteur de la loi aurait dû savoir ces choses-là. Hein. Premièrement, ils n'étaient pas autorisés à porter de faux témoignages contre le prochain. Vous connaissez ça, c'est dans le décalogue. Hein. Deuxièmement, ils ne devaient pas envier les possessions du prochain. Donc il avait là déjà une définition du prochain, c'est le voisin. Simplement. Une troisième chose qu'on voit, il leur était aussi interdit de l'opprimer ou de le voler. Un peu plus normal, on va dire, hein, mais bon. Une autre forme de prochain, c'est la mutilation du prochain était punie par la loi du talion. Donc il devait savoir ces choses-là. Une autre chose qu'on voit aussi, c'est que mépriser son prochain était un péché. C'est le proverbe qui dit ça. Puis une sixième chose, il ne fallait pas méditer le mal contre son prochain, dans Zacharie. Et puis sept, l'homme violent qui séduisait son prochain causait la perte de ce dernier. Donc en tant qu'homme de la loi, ayant étudié la loi, il y a beaucoup d'autres textes, hein, mais je fais bref, il aurait dû savoir qui était son prochain. C'est celui qui est autour de lui, tout simplement. Hein, celui qui le fréquente au quotidien. Est-ce que le chrétien sait vraiment qui est le prochain? Parce que là, on est en train de jeter la pierre sur ce pauvre docteur, mais est-ce que nous, notre prochain, il ne serait pas plutôt des fois sélectif? Toi, je t'aime bien, t'es mon prochain. Oh, on est comme ça, hein. Ou alors, quand j'ai des affinités, je vais dire « ça, c'est mon prochain ». Mais si un clochard qui rentre tout à l'heure, bien puant, c'est votre prochain ? Là, on aura un peu de mal, je comprends. Hein, parce que, bouche le nez, voilà. Hein. Dieu nous a donné cette possibilité. Mais c'est aussi mon prochain, et on va le voir avec justement le Samaritain et ce qu'il va faire. Est-ce que moi-même, je ne sélectionne pas un champ comme ça autour de moi en disant « ça, c'est mon prochain », mais au-delà, ça ne sera pas mon prochain parce qu'il est différent, parce qu'il n'a pas la même culture, ou je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'affinité avec lui. En tant que chrétien, normalement, tout le monde est mon prochain. Regardez à côté, à droite ou à gauche, sur votre banc, là. Vous vous connaissez ? C'est votre prochain, hein ? Ah ouais, j'entends souvent, hein, tu sais le prénom de celui-là, avec les cheveux bleus et... La personne qui a les cheveux bleus, hein, je vous rassure. Mais c'est votre prochain ? Pourquoi on ne se connaît pas en tant que prochain ? C'est bien dommage. Hein ? Ça, c'est mon prochain aussi. Et Jésus répond au docteur par une parabole, parce qu'il faisait souvent comme cela, pour que le docteur de la loi comprenne plusieurs choses, et surtout qui est vraiment le prochain. Pas d'une façon religieuse, mais d'une façon spirituelle. Hein, complètement différent. Et cette parabole va distinguer le vrai théologien, parce qu'il ne remet pas en question le fait d'être un docteur de la loi. Ce n'est pas ça qu'il remet en question. Mais c'est qu'en tant que théologien, il devait mettre en pratique ce qu'il savait. Et dans ce cas-là, il devient crédible aux yeux de Dieu. Et il oppose totalement la religion, où on fait les choses pour les faire, mais sans les comprendre, forcément. Donc il y a aussi une leçon pour nous, hein, au travers de cette parabole aujourd'hui, c'est que nous, on doit se souvenir de qui est mon prochain au quotidien et dans toutes les circonstances de vie que Dieu mais dans nos vies. Tout le monde est mon prochain, normalement. Tout le monde, que je l'aime, que je ne l'aime pas, c'est mon prochain, normalement. Et je suis censé l'aimer comme j'aime mon Seigneur. Donc, une première chose qu'on apprend là, c'est que connaître la Bible, lui, à l'époque, la loi, ça ne suffit pas. C'est bien de savoir. Je suis content si vous savez déjà. Mais si vous ne la mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Si vous savez que quand vous êtes malade, vous devez aller chez le docteur et que vous n'y allez pas, ça ne sert à rien. Vous serez toujours malade. Donc connaître la Bible, c'est une chose, parce que le Seigneur veut qu'on croise dans la connaissance, mais connaître pour mettre en pratique et agir, évidemment, dans ce contexte, à l'égard de son prochain, comme Dieu nous le demande. Deuxième chose qu'on apprend, c'est que le prochain selon Jésus. On va voir le prochain selon Jésus-Christ. Et là, on oppose en fait le prochain, on va dire religieux, ou la définition que le religieux donne du prochain, avec celui que Jésus donne comme définition. Et on va planter le décor, hein, puisqu'il donne une parabole. Alors attention aux paraboles, hein, on ne va pas chercher tous les petits détails. Il n'y a qu'une leçon, généralement, dans une parabole, à trouver simplement. Hein. Il y a beaucoup de gens qui cherchent est-ce qu'il y avait des pierres sur le chemin, ça, ce n'est pas important. Une parabole donne juste une leçon. C'est tout ce qui est important. Et on voit un homme qui était là, sans origine et commun. Alors, on ne sait pas exactement s'il était juif ou pas. Est-ce que ça changerait quelque chose à la parabole? Je ne sais pas. Mais Jésus ne précise pas. Moi, j'ai envie de dire que ça peut être chacun d'entre nous, qui un jour, peut-être, on se retrouve dans une situation et jeté sur le bord du chemin, là. Mais Dieu peut aussi, peut-être un jour, comme cette parabole, ben, nous faire rencontrer quelqu'un sur notre chemin. Un blessé de la vie, pas forcément qui a été roué de coups, mais quelqu'un qui est dans la difficulté. Et est-ce que ça sera vraiment bon prochain, surtout s'il vient vers vous et qui demande de l'aide? Est-ce que ça sera bon prochain? Cet homme, il est dit, descendait de Jérusalem vers Jéricho. Alors, il faut savoir qu'il y a environ 900 mètres de dénivelé sur 30 km. Hein. Il y a 7 lieues, dit un autre texte. C'est un chemin désertique et dangereux, et c'était réputé pour, si vous prenez ce chemin, vous risquez de vous faire tabasser ou voler ou je ne sais pas quoi. Donc, ça parlait, en fait, pour les gens qui l'écoutaient à ce moment-là. Et l'homme va tomber sur des brigands, évidemment. Il le dépouille, le frappe et le laisse à demi-mort. Et on parle d'insécurité aujourd'hui. Hein. C'était pire à l'époque. Hein. Qui est cet homme aujourd'hui, hein? Moi, je pense que ça peut être quiconque a besoin de compassion. Et pas dire que mon prochain, c'est seulement ceux qui se font rouer de coups par terre et que je rencontrerai un jour. On ne trouverait pas souvent. Hein. Mais quiconque a besoin de compassion, mes frères en Christ ont besoin des fois de compassion, mon voisin, des fois dans des circonstances, dans des difficultés, mes collègues de travail, ma famille, etc. Hein. C'est aussi avec celui avec qui je n'ai pas d'affinité, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Est-ce que mon ennemi a le droit d'être appelé mon prochain? Des fois, on a peut-être un collègue de travail que... Oh, m'énerve, hein. Est-ce que c'est mon prochain? Non, c'est mon ennemi, bien souvent. Mais est-ce que je le considère comme mon prochain? Est-ce qu'on est censé le considérer comme tel? Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire, hein. On n'est pas Amazon non plus, mais quand même. Et puis, il y a des passants qui passent, évidemment. Trois catégories, on pourrait dire, quelque part. Et moi, j'ai envie de me mettre à la place de ces passants. Et parce que c'est facile de jeter la pierre un peu. Qu'est-ce que nous, on aurait fait en face de cette situation-là? Est-ce qu'on serait arrêté ou est-ce qu'on aurait continué? Le premier qui passe, c'est un sacrificateur. Alors, Jésus ne donne pas des exemples par hasard. Sacrificateur descend de Jérusalem vers Jéricho. Certains pensent qu'il aurait fini de faire le sacrifice, ça veut dire vraiment travailler pour Dieu, respecter ce que Dieu demande. Et là, il se retrouve devant un cas pratique, on pourrait dire. Intéressant. Alors, le sacrificateur était descendant d'Aaron, ceux qui faisaient les sacrifices. Et quelque part, c'était des exemples à suivre. Il devait être un exemple à suivre. Et le texte nous dit qu'il passa outre. En fait, le grec s'est dit, il va vraiment aller de l'autre côté. Hein. Il le voit, hop, c'est pas vu. Ça nous arrive, ça, des fois. Hein. Il esquive tout simplement le pauvre malheureux. Lui, qui doit être un exemple, lui qui respecte la loi, qui sacrifie auprès de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il esquive simplement la pratique de ce qu'il est en train de dire aux gens. Le religieux connaît la loi, mais ne l'applique pas. Savoir, ça ne suffit pas, on l'a dit. Parce que juste savoir, ça donne un cœur dur. Je sais, mais je ne pratique pas, le cœur est dur à ce moment-là. Et comment on peut être sacrificateur? Comment, juste quelques instants avant, donner des sacrifices à Dieu, parce qu'on parle d'amour, on parle d'aimer Dieu à ce moment-là, et puis se retrouver devant un malheureux et dire, toi, m'en fiche complètement. On est comme ça aussi des fois, il ne faut pas croire. Hein. Le religieux ne connaît pas, il connaît la loi, mais ne l'applique pas. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 1.6 que nous sommes appelés sacrificateurs, nous en tant que chrétiens aujourd'hui, hein, Apocalypse 1.6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On n'est pas sacrificateur comme à l'époque, puisque le sacrifice a été accompli en Jésus-Christ une fois pour toutes, mais je suis aussi appelé sacrificateur. Et quand je me retrouve face à un pauvre malheureux, est-ce que hop, je passe outre ou est-ce que j'essaie d'aider cette personne? Aujourd'hui, on a la chance qu'on peut appeler le SAMU. C'est pas compliqué, hein, vous appelez. On va pas faire comme à l'époque. On peut appeler la police, mais des fois, est-ce qu'on le fait vraiment? Ou est-ce qu'on s'en fiche? On se dit, il a qu'à se débrouiller. Hein, c'est bien fait pour lui, il mérite. Voilà. On est comme ça, des fois. Hein. Pour le sacrificateur, homme de la loi, homme d'amour, soi-disant, ça ne le concernait absolument pas. Puis un Lévite qui passe, un descendant de Lévi, il assistait le sacrificateur, donc il était dans le même business, on pourrait dire, il faisait plusieurs travaux aussi, lui aussi passe outre, lui qui devait être un exemple aussi à ce moment-là. Mais il n'y avait personne pour le voir, donc personne n'a vu, sauf Dieu peut-être. Mais bon. La loi empêche le vrai amour, celui qui veut juste être légaliste, hein, ça empêche en fait l'amour. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire, on s'en fiche de « il faut faire ». Il faut aussi aimer à un moment. Et pour cela, il faut se laisser transformer par Jésus-Christ. Si je suis légaliste, si je veux juste obéir à la loi, je ne fais pas ce que le Seigneur veut. Il faut d'abord que je me laisse transformer par Jésus-Christ. Dans Jacques 1, 27, il est dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Il y a autant connaître peut-être la parole, mais il y a aussi une action quelque part. Les orphelins, à l'époque, hein, c'était des gens qui étaient vraiment dans la disette, qui n'avaient pas grand-chose, et les veuves encore plus. Parce que quand le mari partait, elles se retrouvaient sans rien. La religion pure et sans tâche, c'est d'aimer son prochain. C'est ce que dit ce texte-là. Elle est censée aider le prochain. Mais là, les religieux sont froids, manquent complètement de compassion, et finalement, Jésus leur montre que ben, vous ne me ressemblez absolument pas. Moi, j'aime mon prochain. Vous, vous ne l'aimez pas, et vous dites être des religieux, être en train de servir Dieu. Vous avez un cœur froid. Et s'il fallait placer aujourd'hui cela dans notre contexte, on dirait qu'il y a non-assistance à personne en danger. Eh oui, parce que quelqu'un peut se retourner vers vous. On dirait que la loi humaine est des fois plus compatissante que ces messieurs à cette époque-là. C'est triste quand même quand on y réfléchit. Et puis arrive le Samaritain. Alors il faut connaître ce qu'est un Samaritain. Un Samaritain, c'était des Juifs qui étaient restés alors que une grande partie était déportée avec Nebuchadnezzar en Babylonie, et eux amenaient des étrangers dans le pays, en Israël, et mélangeaient tout cela quelque part pour justement régner. Et de là, ces étrangers venaient aussi avec leur dieu, etc. Et donc forcément, à un moment, les Samaritains, c'était des Juifs, mais qui ont pris aussi de mauvaises habitudes. Ils ont même, construit un temple sur le mont Gazim. À un moment, c'était à Jérusalem qu'il fallait sacrifier. Et à ce moment-là, ils ont fait une espèce de mixte, on pourrait dire, de la religion juive avec les religions païennes qui étaient venues les envahir quelque part. Et donc les Samaritains, c'était des gens qui étaient détestés par les Juifs. Et c'est pas par hasard que Jésus emploie cet exemple-là, parce que pour le docteur de la loi, d'entendre qu'un Samaritain va venir dans l'histoire, ça devient le... Moi, je n'aime pas. Mais le Samaritain va démontrer de l'amour pour le prochain. L'ennemi du Juif, là, va démontrer l'amour que lui aurait dû avoir. Son prochain. Il le demande d'abord parce qu'il a un amour pour l'ennemi. On ne sait pas si la personne par terre était juive ou pas. Si elle l'était, il l'aurait quand même fait, je crois. Il demande de l'amour pour son ennemi. Il s'occupe de celui qui le hait. Est-ce qu'on est capable d'aller aider quelqu'un qui me hait? Pas évident, hein? Pas évident. Dans Matthieu 5, 46, il est dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ?» Le monde agit de la même manière. Ceux qu'il aime, il va les aider. Au-delà, c'est rare. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on va juste aider ceux qui nous aiment, ma famille, ou est-ce qu'on est capable d'aller aimer au-delà de ce cercle-là? Il démontre une deuxième fois son amour parce qu'il est ému de compassion. Le sacrificateur et le lévite sont passés outre. On voit que même pas un sentiment, rien du tout. Tant pis, c'est bien fait pour toi. Mais lui, il est ému de compassion. Et la compassion, je pense, c'est vraiment le moteur de l'amour pour quelqu'un. Et cet amour, il est aussi agissant. Parce qu'il aurait pu venir là, de, oh le pauvre, hein. Des fois on a la compassion comme ça, et puis, oh, désolé, j'ai pas le temps. On est ému de compassion, mais on va pas plus loin. Le vrai amour, lui, est agissant. Troisième chose qu'on voit dans la démonstration d'amour de ce Samaritain, c'est que son amour est pratique. Il applique la loi. Et il va aimer cette personne sans être égoïste, tout en sachant que c'est son ennemi, mais il va mettre en pratique ce que Dieu demande dans la loi. Quatrième chose, c'est qu'il est patient, on pourrait dire, quelque part. Dans 1 Corinthiens 13, on connaît tous l'amour est patient, etc., etc. Il va prendre le temps. Peut-être qu'il était pressé, ce monsieur, la Bible ne dit pas. Mais il va bander ses plaies, il va verser de l'huile. Quelque part, il apporte les premiers soins comme il pouvait, avec ce qu'il avait. Mais il a pris le temps avec cette personne. Des fois, on veut bien aider quelqu'un, mais on doit aller vite parce que... On est pressé, on a ça à faire, hein, il y a une émission télé, un match de foot, je ne sais pas quoi. Il faut prendre le temps des fois. L'amour est patient. Prends le temps avec son ennemi même. Cinquième chose qu'on peut voir dans cet amour, c'est qu'il le mettra à son comble, on pourrait dire, parce qu'il aurait pu le laisser là avec ses plaies, mais il va l'amener à l'hôtellerie, hein, quelque part, il l'amène à l'hôpital, et il va prendre du temps, et il va donner de l'argent pour cette personne qu'il ne connaît pas, qui est peut-être son ennemi. Il va loin quand même, quand on y réfléchit. Mais c'est ce que Jésus nous demande, en fait. Parce que ça, c'est qu'une histoire. Mais quelque part, Jésus attend cela de chacun d'entre nous aussi. Et puis, c'est un amour qui ne s'arrête pas. Hein. Il aurait pu le laisser à l'hôtellerie et puis s'en aller, mais il le confie à l'hôtelier et lui donne de l'argent. Il dit, je vais revenir voir dans l'état où est cette personne. Des fois, on aide les gens, puis bon, une fois qu'on l'a aidé, on s'en débarrasse. Parce que bon, on n'a plus le temps, ou je ne sais pas. Alors, on ne peut pas toujours le faire, mais bien d'accord. On n'est pas à l'hôpital non plus. Mais si vraiment on veut aider quelqu'un, je pense qu'il y a un suivi aussi. Et pourquoi pas à l'occasion de lui présenter Jésus-Christ dans sa vie. Voilà donc le contraste entre les religieux qui savent quoi faire, mais qui ne le font pas. Et puis l'autre qui était un mix de la religion, on pourrait dire, qui n'était pas comme Dieu le voulait forcément dans la pratique religieuse, mais qui avait compassion de son prochain. Quelque part, Jésus est en train de dire, c'est moi un peu le Samaritain là. Parce que vous, les Juifs, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas et vous dites que bah, ce que je vous dis, ce n'est pas la vérité. Et même si vous ne m'aimez pas, je vous démontre de l'amour. Et je vais le démontrer surtout à la croix plus tard. Vous devez aussi comprendre ça. Donc ce Samaritain nous rappelle vraiment Jésus qui, malgré qu'il soit rejeté, haï, etc., a quand même, c'est plus plutôt, apporté secours aux perdus et aux pécheurs. Parce que Jésus, en nous regardant avant de monter sur la croix, il aurait dit, mais nous, on est des vrais sacrificateurs, des voleurs peut-être, hein, des menteurs, des tricheurs, des pécheurs, et tout ça, est-ce qu'on méritait vraiment qu'il s'arrête? Alors là, le Samaritain juste a donné un peu de temps, mais Jésus a donné sa vie, parce qu'il m'aimait. Quand même une autre chose, hein, notre démarche. Mais le Seigneur s'est plu à s'arrêter pour chacun d'entre nous. Il nous a appelés, on a vu ça tout à l'heure avec Géraldine. Hein. Des fois, on évangélise, et puis on a un coup de fil un jour, et puis on est tout content de voir que le Seigneur travaille même sans nous, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, le Seigneur est venu pour des pécheurs, des gens qui étaient au bord du chemin, et il s'est plu à s'arrêter, à nous aimer, à avoir de la compassion pour chacun d'entre nous, parce qu'il savait que par nous-mêmes, notre religion, notre philosophie, ou je ne sais pas quoi, c'était impossible qu'on s'en sorte. Si Jésus n'était pas venu, où est-ce que vous seriez aujourd'hui? Moi, je serais mort, ça c'est sûr. Certain. Mais vous. C'est bon de se souvenir de cela. Et puis, une troisième chose qu'on apprend, c'est mettre en pratique, justement, ce prochain, ou cet amour pour le prochain. Parce que ça, l'histoire ne finit pas. Hein. Et finalement, alors, il va demander au docteur de la loi, après avoir donné cette parabole, mais alors, d'après toi, c'est qui le prochain? Ben, il répond bien, hein, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers l'homme. Quelque part, il dit, c'est pas moi, en fait, hein, le religieux, l'homme de la loi. Et je ne sais pas, vous avez remarqué, il n'a pas dit, c'est le Samaritain. Il ne va pas le dire, c'est le monsieur, là. Parce qu'il n'arrive pas à le dire, que le gars, en fait, qu'il déteste, c'est celui qui avait plus de compassion, d'amour, qui a respecté, en fait, la loi, alors que lui, il est docteur de la loi et ne le fait pas. Ça démontre aussi sa haine, et la haine qu'ils avaient à l'époque pour ces Samaritains. Mais maintenant, il sait qui est le prochain. Ah, maintenant, il faut se mettre au travail. Ça, c'est pas évident, hein, quand on le sait. Il fallait qu'il se mette à pratiquer, comme le Samaritain, à pratiquer l'amour vis-à-vis du prochain. Est-ce que moi, j'ai compris qui est vraiment mon prochain? Est-ce que j'ai vraiment pris le temps d'analyser cela? Si je devais regarder en arrière dans ma vie, éventuellement, est-ce que des fois, ben, j'ai limité le cercle, comme on l'a dit tout à l'heure, de mon prochain? Quelqu'un écrivait un jour, en parlant du bon Samaritain, hein, « Il y a quelque temps, un homme se tenait devant un grand trou et des ouvriers étaient en train de creuser. Soudain, les parois se sont écroulées sur les ouvriers. Les secouristes arrivaient de toutes parts et cet homme observait avec détachement. Soudain, d'une maison voisine, une dame lui cria « José, ton frère, se trouve là-dessous. » Immédiatement, il enleva son manteau et se mit à creuser. Qui est mon frère? Qui est mon prochain? Où sont les bons samaritains? On passera tous par la route de Jéricho, dit l'auteur. Des fois, on est là, sans sentiment sur certaines circonstances. Par contre, ça, quand ça me touche, alors là, hein, je suis prêt à bouger. C'est triste d'être comme ça. Il devait aussi comprendre le contraste entre la loi et la grâce. Le docteur de la loi, ou pour nous, si nous sommes légalistes, on doit comprendre que c'est des ordres que l'on se donne, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Mais ça ne donne pas la force de se mettre en pratique. Je peux savoir un tas de choses, je peux les apprendre par cœur, réciter, mais ce n'est pas parce que je connais la loi que j'ai, comment dire, l'impulsion de pouvoir le mettre en pratique. Le monde sait qu'il ne faut pas tuer. C'est pas pour ça qu'il le fait. Le docteur de la loi devait comprendre que c'est parce que Jésus va venir et qu'il va donner la possibilité à celui qui se repent, évidemment, qui accepte la grâce, de pouvoir se mettre au travail et surtout d'accomplir la loi. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'étiez pas né de nouveau, et même déjà, en tant que né de nouveau, on a du mal à aimer son prochain, mais depuis que je suis chrétien, enfin je pense, moi j'aime les gens autrement, en tout cas. Et j'essaie de les aimer au maximum de ce que je peux. Avant, je m'en fichais complètement. Débrouillez-vous, les gars. Maintenant, il y a une forme de, pas de culpabilité, mais il y a un amour pour le prochain. Et ça, c'est parce que le Seigneur transforme notre cœur et notre vie. Si vous n'aimez pas votre prochain, posez-vous des questions. Alors, je ne vais pas dire vos ennemis tout de suite, hein, parce qu'on doit apprendre aussi certaines choses, mais si j'ai aucun égard pour personne, alors là, je dois me poser certaines questions. Jésus lui dit, va et toi, fais de même maintenant. Mets-toi à pratiquer l'amour que tu viens de comprendre, dont tu viens de certifier aussi l'authenticité quelque part. Fais pareil. Pour Jésus, le prochain, c'est tout le monde. Et quand on connaît la vie de Jésus, il est allé voir les Samaritains, la Samaritaine. Hein. C'est l'ami, c'est l'ennemi, c'est les êtres humains, c'était les prostituées. C'était absolument toutes les personnes humaines qu'il pouvait rencontrer. Ça, c'était le prochain de Jésus-Christ. C'est celui qui a besoin d'aide. C'est celui peut-être à qui je peux aussi témoigner de la bonté à un moment. Enfin bref, c'est tout le monde, tout simplement. Jésus ne dit pas que aimer le prochain, ça allait le sauver. Bien d'accord. Parce qu'il faut se repentir pour être sauvé. Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Mais une fois que je l'ai fait, le fruit justement de cette conversion et de cette nouvelle naissance, c'est que normalement, j'apprends à aimer mon prochain. Je dis bien j'apprends, parce que je ne pense pas que vous aimez tout le monde comme ça facilement non plus. Bon, il faut du temps, hein. Il faut que le Seigneur nous transforme, qu'on change dans notre cœur, notre vision des choses, etc. Mais on va apprendre à aimer son prochain et Dieu se plaît à mettre des fois des ennemis devant nous. Je dis souvent, hein, j'avais un collègue de travail à l'époque, pendant 7 ans j'ai dû le supporter ce gars-là, mais il me détestait et me le disait clairement. Donc voilà, au début, bah, comme tout le monde, hein, je tapais sur la tête. À un moment, bah, le Seigneur voilà, vous travaille et vous dit, bah, non, tu es censé l'aimer. Je lui ai demandé pardon. Il n'a pas compris hein, ce que j'ai fait ce jour-là, mais bon, moi j'ai compris ce que je faisais. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a appris à l'aimer. Je ne dis pas que j'y suis arrivé à 100%. Mais ça m'a beaucoup appris pour le reste de ma vie. Donc merci Seigneur pour ces personnes un peu compliquées des fois, dans mon travail, dans ma famille peut-être. Ils sont là pour nous apprendre énormément de choses. Mais l'amour du prochain, c'est un fruit aussi de la conversion. Si je hais tout le monde, posez-vous la question si vous êtes converti. Il y a un problème. Si vous n'aimez pas tout le monde, c'est qu'il y a encore du travail, à mon avis. Le Seigneur nous commande d'aimer notre prochain. C'est un commandement aussi. Ce n'est pas juste une proposition qui est faite dans la Bible. À un moment, si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez aimer votre prochain. Non, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous sont nos prochains. Comme j'ai dit, à droite et à gauche, c'est votre prochain. J'espère que tout à l'heure, tous ces prochains vont apprendre à se connaître. N'allez pas voir que les gens que vous connaissez. Il y a d'autres prochains que vous ne connaissez pas. Allez leur parler, ça serait bien, non? Comme ça, on va devenir le prochain du prochain. Et la prochaine fois, on se connaîtra mieux. On s'aimera mieux. Aimer le prochain comme Christ nous a aimés aussi, c'est ce que dit cette parabole. C'est un amour inconditionnel. Je ne vais pas aimer le prochain si tu as tel critère, si tu es gentil, si tu es je ne sais pas quoi. C'est inconditionnel. Jésus ne m'a pas aimé parce que j'étais bon. Il m'a aimé parce que j'étais pourri, perdu, dépravé. Comme ça qu'il m'a aimé. Il ne dit pas que c'était bien, mais il m'a aimé dans cette situation-là. Et pourquoi moi, je ne pourrais pas imiter Jésus-Christ dans l'amour que j'ai vis-à-vis des autres? C'est pas simple, hein, on est bien d'accord. Mais je peux apprendre en tout cas et je peux grandir dans cet amour. Ça, c'est certain. Le prochain d'aujourd'hui, ben, c'est tout le monde, comme on l'a dit. C'est d'abord, si je veux pratiquer l'amour du prochain, c'est d'abord d'avoir une connaissance théologique. Si je ne le sais pas, forcément, je ne vais pas le faire. Mais si j'ai cette connaissance aujourd'hui, c'est l'intégrer, on va dire, dans le côté intellectuel. Mais après, c'est le mettre aussi en pratique. Si je sais que je dois aimer mon prochain, je vais me mettre en action, je veux mettre au travail. C'est agir en conséquence de ce que je sais. C'est valable pour beaucoup d'autres choses que l'amour du prochain hein, dans la Bible. Tout ce que je sais, je suis censé normalement le mettre en pratique. La Bible nous dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous. Moi j'aime beaucoup ce verset. C'est de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on me fasse. Alors ne dites pas que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse beaucoup, comme ça vous n'aimez pas beaucoup les autres. Hein. Généralement on veut le meilleur de l'autre. Hein. On est bien d'accord. Là, une petite histoire, je trouve sympa. C'est un richissime promoteur qui, durant toute sa vie, avait bâti des maisons et qui avait un bras droit qui était le contremaître. Pendant environ 30 ans, ils eurent l'occasion de faire des affaires avantageuses. Un jour, l'homme d'affaires dit à son contremaître: « Je vais prendre ma retraite, mais je veux construire une maison de plus. Je veux que ça soit la maison la plus chère et la plus luxueuse que nous ayons construite. Je pars pour l'Europe pendant une année. Quand je reviendrai, je veux visiter la maison avant de la vendre. Utiliser les meilleurs matériaux, installer les meilleurs équipements et les meilleurs accessoires, ce sera notre dernière maison avant de fermer notre affaire. Alors ne regardez pas à la dépense. » Alors que le propriétaire fut parti, le contremaître se mit à penser: c'est la dernière maison que je vais faire pour lui, c'est l'occasion pour moi de faire fortune. Il construisit une grande maison, mais utilisa des matériaux bon marché, des équipements de basse qualité et des accessoires pas chers. Il empocha la différence de prix, en fait. Quand le propriétaire revint une année plus tard, il visita la maison avec son contremaître. Vu de l'extérieur, elle était magnifique, mais le contremaître savait que ce n'était que l'apparence, en fait. Le propriétaire demanda à son contremaître: elle vous plaît cette maison? Le contremaître dit: oh oui monsieur, c'est une belle maison. Alors le propriétaire donna les clés au contremaître en disant: surprise, je vous donne cette maison pour que vous y habitiez, vous et votre famille. Bonne histoire, bonne leçon. Hein. Est-ce qu'on est capable de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse à nous-mêmes? C'est bien fait à voir, hein, monsieur. Mais c'est des règles de vie que l'on a parfois et on les établit sur des critères qui ne sont pas forcément bibliques. Et on est prêt à négocier des fois cet amour qu'on devrait avoir pour le prochain. On l'a dit, l'amour pour le prochain, c'est un commandement pour aujourd'hui. Dans Jacques chapitre 2, verset 8, il est dit: si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. La loi royale. C'est le top du top dans la vie du chrétien que d'aimer son prochain. Donc il y a un grand boulot, hein, là-dedans, si vraiment on veut plaire au Seigneur. Romains 15, 2 dit autre chose, que chacun de nous complaise, le mot c'est s'efforce de plaire au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Dans le fait d'aimer son prochain, il y a aussi un travail d'édification personnelle. On a bien compris, quand je dois aimer mon prochain, ça me coûte des fois. Forcément, ça va passer par la sanctification, la transformation. Et alors, si en plus mon prochain il est carrément pénible, il y a du boulot, il y a du travail. Mais je veux y arriver, parce que Dieu me dit, je peux aimer cette personne-là, même l'ennemi, normalement. Mais ça va m'édifier. Et si tout le monde s'aime de cette manière dans l'Église, forcément c'est édifiant pour l'Église. Puis Romains 13, 10 nous dit, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si je veux faire du mal au prochain, et j'ai envie de dire même si je pense simplement à faire du mal au prochain, je n'aime pas. Pas en tout cas selon les critères du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il demande de faire du bien. Alors, évidemment, si vous êtes en face de quelqu'un qui vous tape tous les jours, on n'est pas maso, on se comprend bien, hein. Et dans certaines circonstances, il faut quand même s'écarter de la personne parce que, bon, si elle ne veut pas changer, c'est son problème, hein. On ne va pas non plus se laisser frapper juste parce qu'il faut que j'aime mon ennemi, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que j'aurai de la haine pour cette personne-là. Je pourrais prier éventuellement et la remettre entre les mains de Dieu. Mais je veux faire du bien à mon prochain. Comment on pourrait se faire du bien là, ce matin les uns aux autres Moi je sais comment on pourrait me faire du bien éventuellement. Hein. Est-ce qu'on y réfléchit seulement à ça? Ou alors, hop, on repart, c'est dimanche, voilà, il est midi, on va manger, la petite sieste et puis on reprend le travail. Mais est-ce qu'on pense des fois à faire du bien les uns aux autres? Bon, je ne sais pas s'il faut le faire, mais réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce qu'a besoin votre voisin, votre prochain là? Est-ce que vous connaissez ses circonstances, ses difficultés? Est-ce qu'il cherche du travail? Est-ce qu'il a des problèmes peut-être? Est-ce qu'il est malade? Ça vous intéresse? Alors, pas l'air, hein? Eh ben, c'est ça votre prochain. C'est bien de dire oui, je connais, je connais, je connais, mais connaître quelqu'un, c'est prendre le temps avec lui, de parler, de prier, de prendre le temps de connaître. Moi, j'aime bien inviter les gens parce que j'aime bien connaître leur parcours, connaître comment ils se sont convertis, qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est ça mon prochain. Après, je peux dire que je connais cette personne, à peu près, si, parce qu'en général, on ne me dit pas tout, hein. Mais voilà, le prochain mis en pratique selon Jésus-Christ, hein, c'est avoir conscience de notre prochain et l'aimer comme Jésus nous aime. Si j'ai du mal à aimer mon prochain, des fois je comprends, mais quand moi j'ai du mal, je me dis, il m'aime. Et je suis loin d'être parfait. Je suis loin d'être le Gugus le plus sympa, forcément. Hein, et pas une référence forcément. Et Jésus m'aime comme je suis. C'est là où, en fait, on craque. Hein. Enfin, on fond normalement devant le Seigneur en se disant oui, c'est vrai que tu m'aimes, alors il faudrait quand même que je fasse un petit effort pour aimer ce gars un peu difficile en face de moi. Mais c'est bien de revenir à la croix, justement, et de se souvenir d'où je viens, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Si j'ai vraiment compris ça dans ma vie, et la gravité de mon péché, la souffrance de Jésus-Christ à cause de mon péché, alors là, oui, quelque part, je vais me laisser vraiment transformer par le Seigneur. Et je vais commencer à apprendre vraiment à aimer mon prochain comme le Seigneur, même moi, tous les jours. Et si mon prochain est pénible comme moi, je suis pénible tous les jours avec le Seigneur, à moins qu'il y ait quelqu'un de parfait ici. Non. Si Jésus se plaît à prendre le temps à être patient avec moi, bah quelque part, je vais aussi prendre le temps à être patient avec la personne en face de moi. Pour terminer, nous ne pouvons pas aimer notre prochain sans Christ. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'aimer le prochain, ils le font très mal, mais sans Christ, ils ne pourront jamais le faire, parce qu'avec le Seigneur, il nous donne la possibilité tout simplement d'aimer réellement notre ennemi, ou celui qui est pénible, ou simplement notre prochain. Mais il faut naître de nouveau. Il faut avoir été transformé par le Seigneur pour pouvoir comprendre cela. Et au fur et à mesure, le Seigneur va nous faire apprendre à aimer de plus en plus le prochain. Jésus nous a considérés comme son prochain à un moment, hein, quand nous étions ennemis, nous dit la Bible. Quand j'étais le pire ennemi de Christ, il me considérait comme son prochain. Et il m'a aimé et allé sur la croix. Et c'est là, pour moi, l'exemple parfait dans la pratique de l'amour de mon prochain. Cette croix, elle me dit tout, absolument tout. Et je ne peux pas regarder la croix en me disant, je vais aimer que certaines personnes. Lui, il m'a aimé dans l'état où moi j'étais. Et donc, je dois aimer les personnes de la même manière. Vous savez, il y a des gens qui sont pénibles. Je parlais de mon collègue, mais j'ai toujours prié pour qu'un jour ils connaissent Jésus-Christ dans sa vie. Parce que j'en avais d'autres collègues où j'ai compris pourquoi ils étaient pénibles. Il y avait une vie terrible avant, hein, en prison ou des choses comme ça. Et des fois, les gens sont pénibles, mais on ne sait pas pourquoi. Si vous prenez le temps de les aimer, d'aller gratter un petit peu, vous allez voir que finalement, c'est un peu compréhensible aussi qu'ils soient dans cet état-là. Et ils ont besoin justement de Jésus-Christ. Mais il faut qu'on ait la patience, calme des fois avec ces gens-là, pour aller leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Et puis moi-même, je suis le prochain de mon prochain. Ah oui, vous êtes le prochain du prochain. Parce que vous suivez et vous attendez quelque chose des autres. Comment vous voulez qu'ils agissent pour vous, ces prochains-là? Hein? Vous voulez qu'on vous respecte? Non? Vous allez vous faire insulter? Curieux quand même. Vous aimez les petits cadeaux de temps en temps, non? C'est du bien, hein, ça. Je pas, hein? Si j'attends quelque chose des autres, l'autre attend la même chose de moi, tout simplement. Et ça, on l'oublie bien souvent. Parce qu'on est égoïste, on veut bien être aimé des autres, mais après, quand c'est moi qui dois me mettre au travail. Mais comme peut-être à un moment, personne ne veut se mettre au travail, personne s'aime finalement, c'est ça le problème. Donc, je suis le prochain de mon prochain, et comme la Bible dit, je vais faire ce que moi j'aimerais qu'on me fasse au quotidien, et surtout dans l'amour, le pardon par exemple. Pour terminer, deux citations. Quelqu'un disait, mais là c'est positif cette fois, mon projet préféré, disait un certain Frank Lloyd Wright, mon projet préféré, c'est le prochain. C'est joli, je trouve. Si c'est vraiment un projet de vie en tant que chrétien, de vraiment m'occuper du. Alors, ça veut dire, il faut vivre, hein, il faut travailler, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'à mon travail, je n'ai pas des prochains? Oui, j'en ai plein. Et ces prochains, je peux peut-être leur annoncer l'évangile, à un moment, s'ils veulent bien. Un autre disait, un certain Roger Lemelin disait, l'amour du prochain est le sentier qui mène à Dieu. Alors, évidemment, c'est Christ qui nous amène auprès de Dieu, mais quelque part, aimer son prochain, c'est tout simplement imiter Jésus-Christ au quotidien. Pour finir, j'ai envie de dire comme Jésus, va et toi, fais de même, tout simplement. Seigneur, je veux te remercier d'avoir été ton prochain à toi d'abord, parce que tu m'as aimé malgré l'état dans lequel j'étais, loin de toi et ne voulant même pas de toi dans ma vie, Seigneur. J'étais ton prochain et tu as accepté les clous, tu as accepté de verser le sang pour que je puisse être aimé de toi, Seigneur, et naître de nouveau et te connaître et passer l'éternité avec toi, Seigneur, et je t'en être profondément reconnaissant. Apprends-nous à nous souvenir de cet amour que tu nous portes chaque jour, que nous ne méritons absolument pas, et à maintenant aimer notre prochain de la même manière. Seigneur, tu sais que nous avons des préjugés, tu sais que nous avons un cœur dur bien souvent, et je te prie de nous aider à être transformés, justement, à apprendre à aimer. Et merci peut-être pour ces personnes pénibles, des fois, que permet d'avoir sur le chemin qui vont nous aider à être transformés et apprendre à aimer même peut-être notre ennemi. Nous sommes loin d'être parfaits dans ce domaine, Seigneur, et nous avons besoin de grandir, mais tu nous dis aussi que c'est possible et que c'est un commandement, Seigneur. Alors, fasse que dans notre cœur, ce ne soit pas simplement une parole, mais réellement un commandement et justement, toutes circonstances, apprends-nous à faire comme ce Samaritain, Bah écoutez, à aimer, à panser les plaies peut-être de quelqu'un, à accompagner une personne dans ses difficultés, et surtout ne pas le juger, Seigneur, comme on l'a dit. En tout cas, merci Seigneur pour cette parabole et enlève de nous notre légalisme, notre religiosité et fais de nous ben, tout simplement des hommes et des femmes spirituels qui agissent selon tes critères à toi. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.